proposer les participants du débat. Alors, je vous propose qu'on commence, donner la parole à M. Granier de Cassagnac, qui est à la fois auteur et chercheur, et qui peut-être nous dire comment lui voit les choses, comment ces deux activités se nourrissent, comment voyez-vous cette notion d'interaction entre science-fiction et recherche.
Bon, alors, en fait, je suis peut-être pas la meilleure personne pour faire le lien entre les deux, parce que même si je fais les deux, je suis physicien des particules au CNRS et j'écris des livres, j'ai commencé par écrire plutôt des livres. Je pense que Roland va me taper dessus si je dis ça de fantasy. Non, ça va. Et donc précisément, je me suis éloigné de mon métier, donc la science, pour mes premiers écrits. Maintenant, j'y reviens en fait, mais ce qui m'intéresse plus, c'est presque parler de la sociologie de la science plutôt que d'utiliser des objets scientifiques dans ce que j'écris. Donc, juste pour dire que j'étais sans doute pas la meilleure personne pour parler de ça. Cela dit, je pense que je vais dire quelque chose d'évident. Dans la science-fiction, il y a moitié science, moitié fiction. Donc évidemment, les deux domaines se nourrissent l'un l'autre. Dans énormément de livres de science-fiction, on trouve des objets scientifiques qui sont utilisés, extrapolés et fantasmés, on peut dire. Et vice-versa, c'est-à-dire qu'on trouve aussi dans la science des idées qui peuvent venir de la science-fiction. Il y a eu des exemples clés comme ça il y a assez longtemps. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on trouve, peut-être quelqu'un aura un exemple, mais d'auteurs de science-fiction aujourd'hui qui arrivent à inventer quelque chose qui soit utilisé par des scientifiques. C'est une bonne question, je crois, mais je crois que la science est partie tellement loin de nous aujourd'hui que c'est plutôt elle qui invente des choses absolument incroyables et assez peu utilisables par les auteurs de science-fiction. Voilà, je ne sais pas si ça te convient.
Non, mais c'est la tendance en matière, effectivement. Je voudrais passer la parole à Jean-Claude Dugnac, je vais le citer d'abord dans un article qu'il a écrit. Alors, vous me préciserez lequel, mais j'ai retrouvé l'article. Voilà la citation, c'est: dans une œuvre de science-fiction, la science n'est pas là pour faire joli, c'est la baguette magique qui veut transcender le récit. Voilà, alors pour vous, voilà, comment se marie effectivement la science et la science-fiction dans votre œuvre et puis plus généralement?
Plus généralement, dans ce qu'on appelle la véritable science-fiction, et c'est quelque chose qui est quand même un genre assez bien défini, et donc un certain nombre d'œuvres sont relativement connues, il y a effectivement d'abord un regard vers l'astrophysique et un regard vers le lointain, qui est évident, parce que un des premiers émerveillements que connaît tout le monde, c'est qu'on comprend les collègues, bien sûr, on a à peu près tous fait, même si c'est quelque chose que paradoxalement on est en train de perdre dans certains endroits, simplement à cause de l'éclairage des villes, les gens ne voient plus. Mais ça reste quand même une expérience tout à fait étonnante, en fait, de regarder la Lune passer dans le ciel en fait, d'assister à une éclipse, une éclipse, donc c'est vrai qu'on a ça. L'article auquel tu fais référence, c'est une publication qui avait été faite par la Commission européenne il y a quelques années de ça, justement avait étudié l'ensemble des interactions qu'il y avait pu y avoir entre la science-fiction, les fécondations, en particulier les fécondations de la science-fiction vers la science. Il y en avait quelques-unes. Il faut savoir que, par exemple, un certain nombre de problématiques des vaisseaux spatiaux ou des combinaisons extravéhiculaires sont nées de la science-fiction, parce que la science-fiction a commencé à imaginer qu'est-ce que ça pourrait signifier de se balader dans l'espace pour aller faire des travaux. Et par conséquent, quand les ingénieurs de la NASA ont commencé à penser aux combinaisons qui allaient servir pour les sorties extravéhiculaires des astronautes, et les gens n'ont plus dans la navette, il y avait déjà toute une littérature écrite par les autorités scientifiques. C'est pas si vieux que ça. Les gens se posaient la question en disant: qu'est-ce qu'on doit faire, comment ça va fonctionner, etc. Il y avait des concepts qui ont été repris tels quels. Arthur C. Clarke a écrit le satellite géostationnaire. C'est un satellite qui est en orbite et qui reste toujours au-dessus du même point de la Terre. Ce qui est pratique parce que, par exemple, on est au-dessus d'un pays et il peut arroser le pays avec une chaîne de télé, par exemple. Ça, c'est pratique. Il l'a décrit parce qu'en tant que physicien, il était capable de faire les équations qui allaient bien et de définir un concept. Et simplement, à l'époque, on n'avait pas lancé de à côté de ça, c'est vrai que nous, écrivains de science-fiction, on fabrique des objets de rêve. Des objets rêvés, des choses où on dit ce serait super d'avoir ça. D'avoir le communicateur instantané, d'avoir le duplicateur, d'avoir le clone, d'avoir la machine à rajeunir, d'avoir ce genre de choses. Et après, quelquefois, la science pense à tout ça. Mais le clone, par exemple, c'est quelque chose que la science-fiction montagne, elle était trop construite sur une planète et pas sur un écran. Alors que maintenant, les gens qui font des ordinateurs nous disent pour que ça aille vite, il faut que ce soit de plus en plus petit. Les supercalculateurs tiennent dans une boîte à chaussures. Il faut un truc qui est grand comme cette pièce pour les refroidir, mais ça tient dans une boîte à chaussures. Et si on arrive à faire encore plus petit, on est encore plus petit. Vous voyez, il y a des tas de trucs sur lesquels on peut se monter. Sans plus, on a trouvé des tas d'idées, mais bon, ces idées sont fausses.
Merci. Je vais passer la parole à François Maire qui veut rebondir un petit peu sur ce qui vient d'être dit.
Oui, pour rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Jean-Claude, effectivement, la science-fiction nous amène à la science des éléments très importants. Alors, je vous signalais que la NASA, comme l'ESA, hein, l'ESA c'est l'équivalent de la NASA, c'est l'Agence spatiale européenne, étudie depuis une vingtaine d'années maintenant la question des voyages, non pas vers les autres planètes, mais vers les autres étoiles. Alors, il faut que vous sachiez qu'avec les moyens actuels, aujourd'hui, si on utilisait les vaisseaux que nous connaissons, aux vitesses actuelles, il faut 80 000 ans pour aller à l'étoile la plus proche. Ça ne nous rajeunit pas, ça pose un vrai problème. Donc on étudie actuellement, et c'est très sérieux, hein, c'est des études auxquelles il se trouve que j'ai participé à un moment, ça fait une dizaine d'années, à des comités où l'idée c'est d'essayer de trouver donc, des moyens de propulsion beaucoup plus rapides. Il s'agit en fait d'utiliser ce qu'on appelle le moteur annihilation, c'est-à-dire on annihile directement la matière pour former de l'énergie. Qui sont actuellement totalement hors de portée de nos connaissances aujourd'hui. Dans le meilleur des cas, on pourrait faire un voyage en huit siècles, dans le meilleur des cas, mais en huit siècles, c'est beaucoup plus évident que la durée d'une vie humaine, d'où l'appel aux auteurs de science-fiction et l'appel à des vaisseaux gigantesques dans lesquels on mettrait 1 million d'habitants qui devraient voyager vers l'étoile la plus proche, et c'est des projets qui ont été soumis à la NASA. Donc ça, c'est juste pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit. Oui, les scientifiques, de temps en temps, ils vont aller chercher l'imaginaire chez les citoyens scientifiques.
Alors, par l'imaginaire, je vais passer la parole à Stéphane Baxter, qui a une œuvre assez riche, et justement sur plein d'aspects, qui a écrit à partir de des fonds verts, qui prépare actuellement un livre sur le film Avatar et la science dans le film Avatar. Qui peut peut-être nous en parler un petit peu.
Yes, it's the book will be called Science of Avatar.
Oui, donc le livre va s'appeler la science d'Avatar.
It's based on me watching the movie, researching the topics raised by the movie, but also speaking to James Cameron, the director, and his team.
Et donc en fait le projet s'est élaboré lorsque j'ai regardé le film et mes réactions par rapport au film et par rapport aux aspects scientifiques du film, mais il s'est aussi construit à partir de plusieurs entretiens avec James Cameron, le réalisateur de Avatar.
I think science fiction writers are science. Some science fiction writers are scientists, you know, somehow some kind of scientific background as I do. I did an engineering doctorate, and some have no background in science at all.
Donc au niveau des auteurs de science-fiction, en fait, il y a deux sortes d'auteurs de science-fiction. Il y a d'une part des auteurs qui ont un background, je vais traduire comme ça, scientifique. C'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes des scientifiques qui possèdent des doctorats, qui travaillent à de la recherche. Et puis certains auteurs qui, eux, ne sont pas scientifiques du tout.
So James Cameron, Avatar is really his vision. He has a background. He's interested in military technology, has a brother in the US services, he's interested in underwater exploration and so forth. As far as I know, he's not a specialist in science himself.
Et donc James Cameron, lui, n'est pas un scientifique, bien qu'il ait un intérêt très très marqué, par exemple, pour tout ce qui est technologie militaire, pour tout ce qui est les aspects sous-marins. Donc il a une très très bonne culture scientifique, mais ce n'est pas un scientifique lui-même.
So Avatar started out as a series of images, really. He produced paintings which go back to the 1990s of the face of a Navi alien and a rough feel of what the forest of Pandora would look like, and so on.
Et donc, en fait, le film Avatar, chez James Cameron, a d'abord commencé par des images qui lui sont venues. Il avait comme ça des images qui se sont d'ailleurs traduites ensuite, il a fait dessiner. Donc, le visage des Navi, donc qui étaient ces êtres qui habitent sur Pandora et qui ont cet aspect très si particulier. Toute la forêt sauvage de Pandora et comment elle pouvait être, et donc complètement différente de la forêt terrestre.
Et ce qu'il a fait, fortunate to be able to do, I suppose, was hire scientists to sort of flesh out this image. So, for example, they designed the ecology of Pandora and the moon, the animals, the plants, the trees.
Et donc ensuite, la deuxième étape, c'est qu'il a fait appel à des scientifiques, à de véritables scientifiques, pour, à partir des images qu'il avait visualisées lui dans sa tête, voilà la forêt comme je la vois, voilà les individus comme moi je les vois, la tête qu'ils auront. Est-ce que vous pourriez imaginer, à partir d'une logique scientifique, toute l'écologie qu'il pourrait y avoir à l'intérieur de cette forêt, les espèces animales, les climats, et donc imaginer avec une véracité scientifique comment cet univers-là pourrait fonctionner.
So he has, a plausible ecology, which is like ours, but it's alien. But then you have to go back to the images again to bring it to the screen.
Et donc, en fait, à partir de là, il est sur le papier toute une écologie tout à fait plausible qui fonctionnait sur un plan théorique. Et ensuite, il a fallu revenir aux images pour porter ça après à l'écran.
So, as one example, you recall if you've seen the movie that many of the plants respond to touch. They shrink when you touch them. Or they light up when you touch them.
Et donc, par exemple, il peut se souvenir que si vous avez vu le film, ce système écologique particulier, il y a énormément de plantes qui sont sensibles au toucher. Hein, certaines qui se rétractent quand on les touche, d'autres qui s'éclairent quand on les touche, quand on les frôle.
Yeah. Bioluminescence plants, producing light like that. On Earth, it's more common in the oceans than on the land.
Et donc, on a par exemple des plantes bioluminescentes, donc qui ont tendance à s'allumer. Sur Terre, ce type de bioluminescence, on la trouve plutôt au fond des océans qu'à la surface de la Terre.
But Cameron wants to use features like that to show the ecology interacting with the inhabitants.
Et en fait, James Cameron voulait utiliser ce type d'image pour montrer comment l'écologie pouvait interagir avec les habitants de la planète.
So he started with a vision, a dream really. He got the science basis and then went back to the dream. Show the Navi, the habitat of the forest, as part of the forest. You can see it visually on the screen.
Et donc, en fait, il est parti d'une vision, d'image qu'il avait. Il est ensuite passé par l'apport de la science pour créer tout un système plausible. Et il est revenu à l'image pour faire rêver et pour montrer au public comment les Navi pouvaient vivre à part entière, en interaction totale avec le système écologique de cette planète.
So for me, researching the science of the movie, it was an interesting experience. I could study the science on the one hand, and there was a good deal of material there, but also the way Cameron had put this together in terms of the images on the screen, so that we would experience it in a way and feel it.
Et donc, pour moi, ce qui était très très intéressant, c'était d'une part de pouvoir aller chercher la science qui avait été mise en œuvre pour finalement créer tout cet univers, et il y en a eu beaucoup, et j'ai largement de la matière pour le faire, mais aussi et surtout la façon dont après cette science a été remise en image pour produire du rêve et pour produire du sentiment chez le spectateur qui assiste finalement, qui entre dans ce système écologique via ces images rêvées, fantasmées.
Et je pense que j'ai conclu par ça en disant qu'il y a des flaws et des implausibilités et des compromises. I think overall Avatar is, for a modern movie, it's really a pretty good marriage of scientific plausibility with the imagery.
Alors, pour conclure, je dirais que, bien sûr, pour le puriste scientifique, il y a des petits défauts, il y a des petites choses qui ne sont pas tout à fait en accord avec les théories, il y a des points sur lesquels, évidemment, le puriste va dire « Ah oui, mais ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. » Mais finalement, Avatar est un excellent compromis entre d'une part, des aspects scientifiques qui quand même tiennent la route et qui sont plausibles, et un film qui est finalement est un film qui fait rêver, qui montre comment pourrait être un autre système planétaire et une autre écologie. Et c'est finalement ce qui est très très réussi, et le mariage science et science-fiction est finalement bien bien mené à travers ce film.
Merci. Justement, on parle de ce qui fait rêver, on parle beaucoup de formes de vie sur d'autres planètes, sur de supernovas qui explosent. Voilà, on en parle beaucoup en ce moment. Je donnerai la parole à François Hammer, qui est scientifique et qui peut nous en parler pour demander de la science et qu'est-ce qui peut nous faire rêver demain.
Ce qu'on peut dire, en fait, depuis les années 1990, une révolution a eu lieu dans l'astrophysique. qui a été la découverte par Michel Mayer et Didier Queloz de l'Observatoire de Genève des premières planètes extrasolaires. Alors c'est une découverte qui a été faite sur un tout petit télescope, ça a été fait un télescope de 1m92 à l'Observatoire de Haute-Provence, juste en vérifiant en fait les fluctuations de trajectoire des centres de masse des étoiles. On s'aperçoit que c'est influencé par la trajectoire des planètes et on arrive à détecter avec ce qu'on appelle la spectroscopie haute résolution. Alors aujourd'hui, pourquoi je dis que c'est une révolution? C'est parce qu'on a découvert la première en 1994, maintenant on en est à 600. On en découvre tous les jours. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça a plusieurs conséquences. La première, c'est d'abord, les premières planètes qu'on a découvertes, c'était d'énormes Jupiter chauds. C'était des planètes comme Jupiter qui tournaient très près de l'étoile, très très vite. Et en fait, c'était un bio-observationnel. Maintenant, on se rend compte qu'on va découvrir, rapidement, on se rapproche maintenant de ce qu'on appelle des terres. C'est-à-dire que on sait aujourd'hui, on peut dire aujourd'hui, oui, autour de la majorité des étoiles, il doit y avoir un cortège planétaire, et deuxièmement, c'est des terres. C'est-à-dire des planètes de la taille Terre dans ce qu'on appelle des zones habitables. Il y a 150 milliards d'étoiles dans la Voie lactée. La Voie lactée est probablement un havre de paix pour la formation de ces systèmes planétaires et de la vie. Parce qu'il n'y a pas eu d'événements énergétiques dans la Voie lactée. Donc immédiatement, on est en train de raviver un paradoxe, qui est un des grands paradoxes de la science, ça s'appelle le paradoxe de Fermi. S'il y a de la vie autour de, je ne sais pas, 10 milliards d'étoiles, par exemple, 10 milliards de systèmes dans lesquels il y a de la vie, il doit aussi y avoir de la vie intelligente. Pourquoi n'avons-nous aucun signe de cette vie? Donc là, je pense que c'est vraiment une question de science-fiction qui est vraiment très posée. Qu'on n'ait pas de visite n'est pas très étonnant. Je vous ai dit 80 000 ans pour la l'étoile la plus proche, 800 ans avec les techniques les plus performantes. Mais par contre, la vitesse de la lumière nous permet de recevoir des messages de l'étoile la plus proche en 4 ans. Donc, quelques astronomes se sont lancés à surveiller des messages extraterrestres. Et là, c'est plus la différence entre la science et la science-fiction. En fait, quelque part, c'est un mélange total des deux. Et le paradoxe de Fermi reste un des mystères de la science actuelle. On n'a pas de réponse aujourd'hui. Moi, je ne peux pas vous amener de réponse au paradoxe de Fermi. Il y a énormément de discussions dessus, mais il n'y a pas de conclusion.
Si je peux me permettre, la réponse au paradoxe de Fermi en tant qu'auteur de la SF, je peux en apporter une. Stephen Baxter en a apporté plein. Moi, je vais m'en contenter d'une qui est vraiment très modeste. C'est qu'en fait, nous, on a inventé TF1. Les autres espèces extraterrestres n'ont pas inventé TF1. Par contre, ils ont inventé la radio, mais uniquement pour écouter. Et là, ils sont tous en train de nous écouter. Et on est la risée de la galaxie.
Excellent.
Voilà, puisqu'on en est là, je vais vous laisser la parole. Peut-être que justement, on va parler de rêve. Moi, j'aimerais bien que vous nous parliez de psychosphère, de ce que vous entendez par là. Comment vous êtes imprégné de la science, alors peut-être de la psychologie, de la science cognitive, voilà. Comment vous...
Ah, pas seulement, la physique quantique, la physique, oui. Le truc de cordes avec les différentes dimensions, tout ça. Je me suis retrouvé avec une idée qui était comment est-ce que je peux arriver à faire coïncider, disons, une version personnelle des archétypes de Jung avec la physique quantique compliquée des particules, les différents états des particules, les dimensions repliées sur elles-mêmes qui ne se sont pas développées ou qui sont rétrécies après le Big Bang, tout ce genre de choses. C'est vachement pratique, mais ça pose un problème. Par exemple, j'ai des lecteurs qui viennent m'expliquer que j'écris du fantastique. Parce que eux, ce qu'ils voient, ce sont tous ces éléments qui sont purement fantastiques, voire fantasmatiques. Et là on est carrément dans une application, entre guillemets, art science, de la psychanalyse jungienne, à laquelle je ne crois pas du tout. C'est une hypothèse de travail, donc j'utilise des sciences très très molles, et je qualifie la psychanalyse de science très 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 molle. Hein. Je me permets, quand même, je sais que certains d'entre eux ne sont pas d'accord. Et aussi de faire coïncider ça avec les sciences dures et tout ça pour raconter des histoires. Je ne me rappelle plus quelle était la formulation de Jean-Claude, il en avait une très bonne, mais qu'en fait la science-fiction, c'est pas raconter des histoires qui sont possibles, c'est raconter des histoires qui sont tout juste impossibles, ou un truc comme ça. Enfin, arriver à rendre crédibles des choses impossibles, et si on n'utilise pas la science pour construire le background du monde, le fonctionnement, si on n'a pas une idée, il y a même une idée des engins sur les bords, quoi. Mais quand même, qu'on considère plus ou moins comme rationnel, même si vraiment c'est la rationalité est tirée par les cheveux, c'est beaucoup plus difficile de construire un monde qui fonctionne. qu'on a fait le travail de construction, c'est beaucoup plus facile de raconter des histoires aussi. Donc, je veux dire, moi je considère que la science est au cœur de la science-fiction, très clairement, mais ça se voit pas forcément dans le résultat final.
Je vais rebondir là-dessus parce que justement, ça se voit. On a vu, quand on parle de science-fiction, on parle beaucoup de science. Moi, je voudrais poser la question, vous poser la question. Est-ce que la science-fiction n'est pas un vecteur de la vulgarisation de la science? Et jusqu'à quel point est-ce que les scientifiques l'acceptent comme tel ou pas?
Hugo Gernsback, inventeur de grande science-fiction, n'a jamais donné de définition de la SF, mais il y avait quand même, disons que ça tenait en trois points. Et l'un des points était la pédagogie. L'autre point était la prophétie. Et le troisième, je crois qu'il fallait qu'il y ait une aventure. Enfin, bon, simplifié vraiment beaucoup. Mais la notion de pédagogie pour le fondateur de la science-fiction moderne est fondamentale. Maintenant, l'auteur de science-fiction n'est pas obligé de faire preuve de pédagogie. Par contre, ce qui est très clair, c'est que tous les lecteurs de science-fiction qui sont ici ont appris, ont acquis certaines connaissances scientifiques, d'abord de manière fragmentaire ou partielle dans une lecture de science-fiction, et l'ont confirmé par la suite.
Moi, je peux.
Comme tu battez-vous.
Je gagne. Non, juste pour répondre assez précisément à ta question, est-ce que les scientifiques considèrent la science-fiction comme un vecteur de vulgarisation? Je fais une toute petite distinction, c'est que je pense que le scientifique qui veut que sa science soit vulgarisée, il veut qu'elle soit vulgarisée de façon exacte, il veut que ce soit la vérité scientifique qui soit expliquée dans des mots simples au grand public. Et la science-fiction, elle ne fait pas forcément ça. Elle invente ses propres sciences, ses propres fictions. Enfin, c'est la partie fiction de la science-fiction, donc elle va au-delà de ça. Donc j'appellerais plutôt ça une espèce de popularisation de la science plutôt qu'une vulgarisation. Ce qui est tout aussi bien. Moi, je suis très intéressé que les auteurs de science-fiction parlent de science parce que ça rend la science plus populaire. Mais ça ne la rend pas, ça l'explique pas forcément de façon exacte.
Les critères de rigueur scientifique n'est pas le critère de vraisemblance. Le lecteur de science-fiction attend de la vraisemblance, il n'attend pas de la rigueur scientifique.
Exactement.
Il y a aussi un domaine que la science-fiction aborde, tout simplement parce que la science ne veut pas l'aborder, tout simplement. C'est ce que j'appellerais les questions indécidables. Il y en a un certain nombre. Je vais vous donner un exemple. Supposons qu'on se pose la question de savoir s'il y a de la vie non pas sur notre galaxie, mais sur la galaxie des voisins. Sachant qu'il y a des milliards de galaxies. Y a-t-il de la vie dans la galaxie des voisins? C'est une très bonne question qui n'a rigoureusement aucun intérêt pour nous, parce que la vie de la galaxie est tellement loin que même si la vie existait, qu'elle soit comparable à la nôtre, qu'on puisse se parler, on ne pourrait tout simplement pas, parce que le temps que le message nous parvienne, notre étoile serait peut-être disparue et nous en existe. Donc peut-être qu'il existe en ce moment, dans un certain nombre d'endroits de l'univers, un endroit extrêmement vaste, des gens semblables à nous, voire même supérieurs à nous, voire même qui pourraient résoudre nos problèmes, sauf qu'on ne les appelle pas. Ils sont hors de nos droits. La question de savoir s'ils y sont ou pas, elle est scientifiquement sans objet. Par contre, d'un point de vue science-fiction, elle a un véritable sens, parce qu'elle oriente notre vision du monde. Si nous partons du principe que nous sommes l'un des représentants intelligents d'un univers extrêmement vaste, mais juste un des milliards de milliards d'espèces d'intelligence, nous n'avons pas le même rapport au monde que si nous on dit, par exemple, l'expérience religieuse, Dieu a créé la Terre et la Terre seule, peut-être son intelligence, il a envoyé son fils ici. On n'a pas dit qu'il avait envoyé un milliard de clones de Jésus, sauver un milliard d'extraterrestres de partout. Il n'y a que nous, vous voyez ce que je veux dire. Donc à ce moment-là, on n'a pas le même rapport au monde. Et là, la science-fiction s'interroge sur ce genre de choses, elle se pose ce genre de problématiques, et elle essaie d'une certaine façon de les illustrer. Et ça, la science, en fait, on n'y touche pas parce qu'on approche de la zone où simplement la question peut vous revenir dans la figure comme un moment. Et est-ce que nous aimons bien, nous, écrivains de science-fiction, est-ce que nous détestons en tant que scientifiques? Et moi, qui suis les deux, ben, j'ai appris à me baisser pour expliquer les mouvements que je jette moi-même dans ma composition.
J'aime beaucoup quand tu parles, Jean-Claude, parce que justement, ça me donne vraiment l'occasion de réagir. Alors, c'est un petit peu pour vous décrire que de temps en temps, ben, la science commence à faire des projets qui ressemblent pas mal à des projets de science-fiction. parce que justement, en fait, on est en train actuellement, l'Europe est en train de mettre en place un des plus grands télescopes, le plus grand télescope du monde. Le grand miroir qui aura 39 mètres de diamètre, il sera installé au Chili, donc la décision va être cette année normalement. Et nous avons justement, il y a des projets d'instruments, nous sommes d'ailleurs sur un des projets d'instruments dont le but est de détecter, par la même méthode que Michel Mayer a utilisée pour détecter les premières planètes extrasolaires, mais détecter des planètes extrasolaires dans les nuages de Magellan, hein, dans une autre galaxie. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, Jean-Claude, on peut même déjà répondre qu'il n'y aura probablement pas de vie sur ces planètes extrasolaires, pour une raison très simple, c'est que les éléments lourds dans les nuages de Magellan sont 3 à 4 fois moins abondants que dans la Voie lactée. Donc la chance qu'il y ait suffisamment d'éléments lourds pour la formation de la vie est plutôt extrêmement faible. Donc là, l'intérêt, c'est plus de comprendre la formation des planètes, de comprendre un petit peu comment les choses peuvent avancer. Mais alors, par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on pourrait très bien recevoir des messages, s'il y avait une planète sur les nuages de Magellan, par exemple, on pourrait très bien recevoir un message. Puisque nous n'oublions pas quand même la chose qui est fondamentale. L'univers, il a 13,7 milliards d'années. D'accord. Il y a quand même eu le temps. Donc, notre système solaire est relativement récent, hein, 5 milliards d'années. Nous, les galaxies qu'on observe, elles ont... On les observe 6 milliards d'années dans le passé. On peut très bien imaginer que dans d'autres galaxies, il y ait effectivement de la vie et qu'on reçoit des messages, certes, des messages, 2 millions d'années pour nous venir d'Andromède, par exemple, hein, mais on peut imaginer qu'il y ait des civilisations et qu'on puisse recevoir encore leurs messages.
Imagine quand on reçoit un message d'Andromède, par exemple, qui vous dit on a l'immortalité, mais cette œuvre, on est malade 24 heures, est à 2 millions d'années pour en une des choses, par exemple, aussi qui est intéressante dans le rôle que peut jouer la science-fiction, c'est par exemple de rappeler au grand public, aux gens qui ne savent pas, un certain nombre de choses qui sont parfaitement évidentes et qu'on oublie tout simplement. Dernièrement, je me suis retrouvé à expliquer à quelqu'un qui me disait mais pourquoi est-ce que vous, les scientifiques, vous êtes toujours obsédés par le fait qu'il y ait de l'eau liquide sur une planète pour votre histoire de recherche de la vie? Pourquoi l'eau? Je veux dire, à quoi ça sert? Qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi cette histoire? Et à qui j'ai dit mais est-ce que tu te rends compte à quel point l'eau, c'est ça, c'est un liquide extraordinaire. Est-ce que vous le réalisez? Mais elle m'a regardé, elle m'a dit non, parce que l'eau, pour l'orbiter, il y en a de la place. Pourquoi ça l'est, c'est un liquide extraordinaire? D'abord, réfléchissez, l'eau, c'est constitué de deux gaz, hydrogène et oxygène. Deux gaz extrêmement légers. Vous mélangez deux machins légers, vous obtenez quelque chose d'encore plus léger. Vous fabriquez des combinaisons de gaz beaucoup plus lourds, vous obtenez quand même un gaz très léger. L'eau, elle est liquide, légère. Pourquoi? Parce que la molécule H2O, on l'obtient uniquement en électrifiant ce nuage de gaz H, hydrogène et oxygène, ce sont des aimants. Et que par conséquent, la molécule, elle est démontée à la molécule d'à côté, et elle forme de longues chaînes d'aimantation qui permet à l'eau de rester liquide. Et que comme c'est quelque chose formé d'aimants, c'est quelque chose qui sépare les éléments, qui dissout énormément de choses, et qui les recombine. Donc c'est un endroit dans lequel beaucoup de choses se passent, dans lequel la vie s'agit, et dans lequel de nouvelles combinaisons se forment. Donc ça, c'est l'eau. C'est le liquide que vous connaissez, le liquide le plus courant de votre vie. Mais personne ne se rend compte à quel point c'est extraordinaire. Or, nous, écrivains de science-fiction, de temps en temps, on dit, mais l'eau, c'est fondamental pour ces raisons-là, c'est magique. C'est véritablement quelque chose de totalement étonnant. Et c'est un ensemble de, vraiment de coïncidences qui font que cette eau-là, elle a donné la vie comme nous l'avons. Et elle nous a permis à nous de partir de la Lune pour arriver sur le sol. Et donc, de temps en temps, on est obligé de revenir à des problèmes tout à fait fondamentaux parce que personne ne se soucie de l'eau. L'eau, c'est comme ça. Ben, c'est une des preuves peut-être que l'univers peut se montrer remarquablement. Je l'ai favorable à ce que nous sommes. Et nous, nous posons toujours la question. On est là pour ça.
Non, si on n'est pas dans la vulgarisation.
Avec la bière.
La bière ou le vin, j'allais dire. Voilà, donc là, si on n'est pas dans la vulgarisation, c'est un bien. Stéphane Bechtel, vous voulez réagir aussi?
I'd just like to go back to the earlier points about life in distant galaxies.
Oui, donc j'aimerais revenir sur le point de la vie dans les galaxies lointaines.
Even if they never contact us, their existence, I would say, is more than just an abstraction, more than just a philosophical question.
Même si un certain nombre de gens pensent que cette vie n'est que finalement qu'une abstraction et pas forcément quelque chose qu'on va pouvoir toucher du doigt.
Just as, imagine we were living on some remote island in the Pacific, out of touch with the rest of humanity.
Imaginez par exemple qu'on soit en train de vivre sur une île complètement reculée du Pacifique et hors d'atteinte de tout le reste de l'humanité.
But we're nevertheless affected by the rest of humanity because the rest of humanity is changing the climate.
eh ben, on serait quand même influencé par le reste de l'humanité, parce que en ce moment l'humanité change le climat. Donc le reste de l'humanité, même si on n'est pas conscient qu'ils sont là, ils auraient une influence sur nous.
So I met in much science fiction in my Zeely universe, for instance, and Olaf Stapledon on his cars.
Oui, donc par exemple dans l'univers de Zeely sur lequel j'ai travaillé.
And in such science fiction, life affects the evolution of the universe as a whole.
Et ben j'ai décrit que par exemple la vie influence l'ensemble de l'univers comme un tout.
For instance, by meddling with the evolution of the stars or meddling with the expansion of the universe.
Et donc par exemple, elle influence l'évolution des étoiles, l'expansion de l'univers.
So it may not be possible to do astrophysics, for instance, in the future, without taking account of the effect of life.
Et donc, par exemple, eh ben, peut-être que dans le futur, on ne sera pas capable de faire de l'astrophysique sans prendre en compte l'existence de la vie.
So I think life in the Andromeda galaxy is more than just an abstraction, you see, because it could affect us in the future and the way we think about the universe.
Et donc, par exemple, ben, l'existence d'une vie sur Andromède, c'est plus qu'une abstraction, parce que ça pourrait nous influencer par le simple fait qu'on est conscient qu'elle existe.
And let me give one specific example of how that might affect our thinking of natural phenomena.
Et donc laissez-moi donner un exemple justement sur ce que je pense de ce phénomène.
There's a story by Gregory Benford called Bowshock. Bowshock. Bowshock,
c'est le bow, c'est la poule normalement. C'est la poule du navire.
Oui, c'est aussi ça. Oui.
Donc il y a une histoire qui a été écrite qui s'intitulait. Donc la proue par le choc de la proue, voilà.
In this story, Gregory Benford, I should say, is a physicist himself.
Et donc dans cette histoire, donc Gregory Bancroft est un
physicien lui-même.
Un physicien donc lui-même.
And in the story, they observe what they think is a neutron star moving very quickly, so creating a bow shock in the stellar gases.
Et donc, dans l'histoire, ils sont en train d'observer une étoile à neutrons qui tourne très vite et qui crée justement ce choc de proue à l'intérieur de la galaxie.
However, it starts to behave strangely, and they finally guess that it could be a massive interstellar starship creating the same kind of shockwave.
Et donc, finalement, lorsqu'ils l'observent, ils constatent quand même que cet objet qui traîne pour une étoile à neutrons se comporte bizarrement. Et ils finissent par conclure que c'est peut-être une certaine forme de vaisseau spatial qui contient finalement des formes de vie qui sont en train de voyager vers la galaxie et que ça provoque cette interaction.
Et dans l'ordre de chance, effectivement, puisque d'abîmer les étoiles, on est au-dessus de la.
Voilà, absolument.
And the point of the story really is that the scientists have to expand their imaginations to conceive those hypotheses in the first place and then test them.
Et donc, finalement, l'intérêt de l'histoire, c'est de montrer que les scientifiques ont parfois besoin d'élargir leur imagination pour poser des hypothèses auxquelles ils n'avaient pas pensé avant, de manière à pouvoir expliquer certains phénomènes, d'où l'effort d'imagination nécessaire.
I think we have to start with the assumption that what we see is natural, but it could be that we're surrounded by evidence of life and its workings on all sorts of scales.
Et donc finalement, il faut qu'on s'habitue à penser que ce qu'on voit et que l'on trouve comme naturel et auquel on donne une explication en a peut-être une autre qui est liée à l'existence d'une vie à laquelle on n'a pas encore pensé.
Imaginez qu'il y ait des espèces vivant sur d'autres galaxies qui atteignent un niveau de technologie telle qu'ils sont en train de reconstruire l'univers de la manière qu'ils arrangent, voire de le réparer, de ressembler à l'univers. Et ça entraînerait quelquefois certaines explications. En tout cas, de science-fiction intéressante, parfois certaines éléments. Personnellement, moi j'ai écrit un livre avec mon ami Agatha dans lequel on partait d'hypothèse qu'on était dans un petit univers chiffonné et qu'on le dépliait à la fin. Donc, en fait, le budget d'effets spéciaux, on peut se permettre à l'hypothèse qu'on veut. Mais pourquoi pas? Je veux dire, ce qui est intéressant de se dire, c'est que le fait de voir tant d'étoiles dans le ciel, ça veut dire soit qu'il y a énormément d'étoiles, soit qu'il y a un petit nombre d'étoiles, mais qu'en fait, l'univers étant en quelque sorte chiffonné, on voit cette étoile qui sont reflétées là, qui sont reflétées là, qui sont reflétées là, qui sont reflétées là, et qu'en fait il y a 10 000 fois moins d'étoiles que ce que l'on voit, mais qu'il y a beaucoup de reflets d'écho dans le temps et dans l'espace. On peut avoir soit des univers pauvres quand il y a une structure complexe, soit des univers riches, mais avec une structure sale.
Peut-être que je peux parler un peu de ça. Effectivement, il y a effectivement des modèles d'univers chiffonnés qui se replient sur eux, etc. Il faut toujours penser tout de même en science qu'il y a la partie théorique. Le cerveau humain, les chercheurs, et d'ailleurs
atmosphère très fertile. Mais très souvent, il y a quand même des moyens, disons, de valider ou d'invalider de façon observationnelle ce genre de choses. Pour l'instant, disons qu'on n'est pas parti vers une validation. Pour être très simple. Par contre, pour revenir un petit peu à la question posée par Stephen, effectivement, on peut se poser des questions qui sont parfois même qui paraissent vraiment à nouveau de la science-fiction. Il existe des articles très sérieux, enfin, qui sont des articles qui passent sur les revues, dans des revues scientifiques, qui font une hypothèse assez extraordinaire de se poser la question si les céphéides, qui sont des étoiles très particulières, variables, et qui ont une variabilité, une période très bien, suffisamment précisée, suffisamment précise, pour que grâce à elles, on puisse mesurer la distance de ces objets, que ces céphéides, en fait, existeraient et auraient été construites par des civilisations. Alors, ce serait ce genre de choses, vous voyez, qui permettraient de jouer un peu le rôle de jalon dans l'univers, puisque les céphéides, on peut les voir, pour le coup, bien plus loin que la galaxie romaine, on peut les voir jusqu'à la main de la Vierge, c'est-à-dire. Déjà, on est en train de parler là de 3 à 5 milliards de millions d'années-lumière. Alors ça, c'est un premier point. Alors, il y a une autre chose, parce que souvent, et moi je trouve que les auteurs de science-fiction devraient aussi aller chercher dans cette affaire-là, en science, on a plein de paradoxes. Alors les paradoxes, je vais en sortir encore un autre. Un autre paradoxe, c'est le paradoxe qui est lié à l'énergie du vide. Alors ça introduit en plus le débat débat qui va se suivre. L'énergie du vide correspond en fait à l'explication d'une accélération de l'univers, et sur cette accélération de l'univers, apparemment, est une accélération qui a lieu pratiquement maintenant, il y a quelques milliards d'années. Pourquoi cette accélération de l'univers? Pourquoi l'univers se met à accélérer alors que, au même moment que notre existence, que nous sommes là? Ça, c'est un paradoxe. Un paradoxe qui, pour l'instant, il y a plein d'articles sur ce sujet. Pourquoi il y aurait un lien entre l'accélération de l'univers et l'apparition de la vie?
Quelques idées pour un nouveau livre?
Si, moi, j'ai une idée, en fait, je pense savoir pourquoi. C'est parce que depuis que l'homme est apparu, donc que la vie est apparue, en fait, on est seul dans l'univers et l'univers nous fuit parce que justement, on est incompatible avec tout ça.
Sauf Andromède, attention.
Encore à cause de TF1, ça va être. Peut-être
à cause de Sarko.
Peut-être que maintenant on peut prendre quelques questions ou quelques réflexions du public, s'il y en a ou pas. Non? Oui.
Nous prenons les dons en espèces.
C'est un micro.
Si vous parlez fort, voilà. Si tu as besoin. Non.
En fait, je voulais juste revenir sur ce qu'avait dit Jean-Claude au sujet de la question du nom de l'émission de l'unité qui s'intéresse, mais qui m'opposait à la directive de la religion, mais à la limite, je voudrais poser la question dans le français. Est-ce que c'est pertinent pour une religion humaine de parler de la vie extraterrestre qui, de toute façon, sera très difficile pendant des milliers d'années de parvenir à mesurer de manière quelconque?
Il faut savoir qu'il y a un groupe de jésuites au Vatican, c'est sérieux, qui publie des textes et des encycliques de promotion de ce type sur les contacts et l'évangélisation de races extraterrestres. Si ça existe. C'est juste, et moi-même, j'ai écrit et publié dans le fanzine de mon petit camarade ici une nouvelle qui est constituée en fait de la description du kit d'exploitation d'un missionnaire, ça s'appelle Missionnaire de l'ex-exploitation, qui explique comment est-ce qu'avec un vaisseau, on peut se trimballer avec une cathédrale gonflable, qu'on monte avec le gros échappement du vaisseau, et des choses comme ça. Et j'ai écrit ce texte, je pense, en 89, et j'ai vu apparaître sur Internet les premières cathédrales gonflables, je parle sérieusement, au début des années 2000. Voilà. Et donc voilà un des exemples où la science-fiction a réellement créé un objet technologique.
Elle n'aurait peut-être pas dû.
Juste rappeler une chose, c'est bon, là, on a dit religion, on peut dériver jusqu'au secte à partir des religions. Je tiens quand même à rappeler que le mandat Rome, avant sa mort, combattait les Lémuriens par télépathie et qu'il en tuait 800 millions toutes les nuits. Donc, effectivement, il y a quand même chez des gens qui croient en quelque chose, et chez la scientologie, et repose également sur la croyance qu'il y a des extraterrestres congelés en orbite qui nous dominent par télépathie. Donc, voilà, on pourrait en citer plein comme ça, sans parler des lectures ufologiques de la Bible, qui sont totalement extraordinaires, qui nous expliquent par exemple que Sodome et Gomorre ont été détruites par des soucoupes volantes et des bombes nucléaires. Mais si, si, et que le casque des astronautes était. L'auréole, c'est le casque des astronautes qui était. Et que les géants de la Bible sont des extraterrestres. Bon. Donc on peut pas faire une coupure franche entre religion et barjoterie. C'est là que je suis en place.
Il y avait une autre question.
Oui, pour revenir à l'aspect religieux, longtemps l'Église catholique, c'est-à-dire qu'on a dit ceux qui croyaient à la pluralité du monde, qu'on verrait dans le jour présent. Mais, bon, depuis, ils sont obligés de reconnaître qu'on n'était pas le seul système planétaire et solaire dans l'espace. Mais par contre, il reste quand même un problème, c'est que finalement l'apparition de la vie intelligente sur Terre répond à tellement de critères qu'on se demande si ces critères ont pu exister ailleurs. Et est-ce que ce ne serait pas un retour justement à un certain anthropocentrisme?
Quelqu'un veut répondre à... C'est sûr que science et religion n'ont pas toujours fait bon ménage. Hein. Alors, science-fiction et religion, je ne sais pas, mais...
Peut-être dire un mot. Effectivement, il y a des échelles. Enfin, on essaye de décrire, avec un langage scientifique, les chances d'apparition de la vie sur une planète. Bon, c'est bien connu. C'est bien connu, mais très mal calculé. Parce que la pression sur ces calculs est très mauvaise. Au niveau scientifique, les choses vont progresser. Par contre, soyons optimistes, c'est pas dans des milliards d'années qu'on va avoir la réponse, c'est bien plus tôt. C'est plutôt, certainement dans un siècle, mais probablement moins. Parce qu'on devrait, en recherchant les biomarqueurs sur d'autres planètes, bon, il s'agit d'expériences un peu difficiles. Hein. Le grand télescope dont je vous ai parlé pourra jouer sans doute un rôle là-dedans, mais on attend aussi des manips spatiales ou des interféromètres spatiaux géants. Ça s'appelle Darwin, hein, le nom clair. L'idée, c'est d'aller chercher en fait de l'eau. On a beaucoup parlé de l'eau, de l'eau sur d'eau dans l'atmosphère d'autres planètes, d'imager directement en spectroscopie l'eau, d'imager en fait en particulier d'autres éléments lourds, des molécules, y compris des molécules complexes, y compris d'aller chercher la chlorophylle. Hein. C'est des choses qui peuvent se faire. Techniquement, on est capable de le faire. C'est plutôt une question de moyens. Ça, c'est le point. Deuxième point, c'est, oui, vous avez raison, il faut faire attention de ne pas être trop central. Jean Schneider avait imaginé d'autres formes de vie qui étaient plus basées sur le carbone, mais sur le silicium. Hein, donc, c'est le carbone Mendeleïev, vous prenez les carbones azote, oxygène, et vous remplacez par ceux qui sont juste en dessous. Il y a quand même une réponse statistique, malheureusement, ça. Il y a beaucoup plus de carbone, d'azote et d'oxygène que de silicium. Donc, par définition, ces vies peuvent exister, hein, c'est pas exclu, certainement pas, mais en règle générale, le Soleil est une étoile qui est relativement riche en éléments lourds, donc cortège planétaire compris, parce que nous sommes nés, notre Soleil est né en fait sur les résidus d'une ou voire probablement plusieurs supernovae, et donc un système très enrichi, donc très favorable à la vie. Donc il y a la réponse est mitigée, hein, c'est pas complètement.
Vous avez tort de dire, je pense qu'il a fallu beaucoup de circonstances particulières pour que la vie apparaisse sur Terre. Il y a deux choses qu'on sait. D'abord, c'est que la vie existe sur Terre depuis pratiquement un milliard d'années, ce qui est énorme, et qu'elle a existé dans des conditions qui sont complètement différentes des nôtres. Elle a existé à un moment donné où il a plu pendant des millions d'années, elle a existé à un moment donné où il n'y a pas d'oxygène, elle a existé à un moment donné où la température à la surface était plus d'une centaine de degrés supérieure à celle qu'on connaît, avec des problèmes de pression complètement différents. C'était des vies totalement incompatibles avec la nôtre, bien entendu, mais c'était des vies suffisamment organisées pour laisser le possible, pour des choses comme ça. La vie veut vivre. Et donc la Terre elle-même, en tant que laboratoire, a prouvé que une vie organisée pouvait naître dans des conditions extrêmement variées, y compris à notre époque, on trouve des vies dans des profondeurs océanes, où on a des choses humaines où on ne peut pas vivre, où on a des organismes qui sont basés sur des principes biologiques complètement différents des nôtres, avec lesquels on ne peut pas se croiser, avec lesquels on ne peut rien avoir. Il y a même des extraterrestres sur Terre. Donc, il ne faut pas croire que c'est si difficile que ça. D'autre part, les planètes situées dans des orbites permettant à ce qu'on appelle les néo-orbites, permettant à l'eau d'exister de forme liquide, comme on vous le dit, on en trouve de plus en plus. Et il y a tellement d'étoiles dans la galaxie l'intelligence et le niveau de complexité que nous avons atteint est peut-être un accident, mais la vie sous sa forme, la vie telle qu'elle existait à l'époque du Crétacé, etc., elle est tout à fait accessible, tout à fait accessible. Et d'ailleurs, il y a énormément de bouquins de science-fiction depuis longtemps qui explorent non pas les extraterrestres, mais l'archéologie des extraterrestres. C'est-à-dire que nous débarquons sur des planètes dans lesquelles des civilisations vécues disparues et nous explorons la voie. Et nous trouvons énormément de bouquins de ce genre. Parce qu'il y a des échelles temporaires. Il se peut que la civilisation qui aurait pu nous intéresser soit morte il y a des millions d'années et qu'elle ait été florissante il y a 50 millions d'années. À l'époque, nous, on était même ça là. Mais la vie, en tout cas, la vie a toutes les chances de pouvoir exister parce que l'organisation de structures simples en structures de plus en plus complexes est une tendance naturelle de l'univers pour des raisons de conservation de la vie.
Peut-être justement pour ajouter un mot, notre galaxie est constituée d'un gigantesque disque dans lequel se trouve notre Soleil, on est presque au bord du disque. En fait, on pourrait beaucoup s'intéresser à ce qu'on appelle le bulbe, qui est la région centrale dans laquelle les étoiles ont des orbites plutôt aléatoires. Parce que le bulbe, justement, d'abord correspond à des étoiles qui sont beaucoup plus anciennes que nous. Là, on est en train de parler d'étoiles qui ont jusqu'à 8 à 10 milliards d'années, hein, comparé à 5,5 pour le Soleil. Ça, c'est le point 1. Le deuxième point, riche en éléments lourds. Donc, c'est vraiment un questionnement, c'est complètement ouvert, hein, bien sûr. Mais rien que dans le bulbe, il y a à peu près une quinzaine de milliards d'étoiles, extrêmement riches en éléments lourds, probablement notre cortège planétaire. Et certainement des objets extrêmement anciens. Donc il n'y a aucune raison non plus qu'on soit là, si on est une civilisation, que la Terre ait abrité la première forme de vie.
Bien, mais allez-y.
Ah, alors ça, c'est une autre question. Ça, c'est une question purement aéronautique. Le problème qu'on a actuellement, c'est qu'il faut trouver un carburant pour faire rouler des avions, pour faire rouler des voitures. Et sous sa forme, là, je dirais, là, il faut un carburant qui soit compact, comportant beaucoup d'énergie par mètre cube, si je peux dire, et pas trop lourd. Pour l'instant, il est certain que le truc que je vais faire le mieux, c'est de faire rouler des voitures. Le pétrole, c'est un... C'est vraiment le corps idéal pour faire
rouler des voitures.
Il
n'y a pas de
c'est-à-dire de l'hydrogène en liquéfié et stocké dans certaines
façons.
Je ne sais pas si on le fera voler dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais en tout cas, sûrement qu'on continue à porter des avions, des objets volants dans un siècle ou deux, il est certain que le poids du carburant se sera posé d'ici là.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, oui?
Une petite question à Stephen Baxter. Dans votre équipe plume de Tintin, le directeur de The Proche s'appelle M. Baxter ou Baxter. Est-ce qu'il y a là un rapport avec vous?
Related.
So the name is Mr. Baxter. So is there any relation with you?
Oh, I wish it was true.
J'espère qu'il y en a une, mais pas ma connaissance.
It's the Belgian branch of the family.
C'est probablement la branche belge de la famille. Yeah.
I think we're getting towards the end. I think my closing remark, while I've got the microphone, will be.
Sorry.
My closing
Ah oui, donc il disait que ce serait probablement une remarque un peu en forme de conclusion parce qu'on approche de la fin. Et pendant qu'il a le micro, donc voilà, c'était la remarque intéressante du jour, c'est la branche belge de la famille.
We covered a science fiction and science in good depth here, I think. The relationship between the science on the one hand and the imagery on the other.
Et donc pour revenir à des choses plus sérieuses, donc en fait, là, au cours de ce débat, on est quand même allé assez en profondeur et ça a été très très intéressant de voir les rapports entre la science et la science-fiction et on a pu explorer ça avec un débat de haute tenue.
I think Roland mentioned Jungian archetypes of psychology.
Alors, par exemple, Roland qui a abordé les archétypes jungiens, ça c'était très intéressant.
We live the scientific universe. It's a very different universe from the old universe, the old Christian universe, devised and run by God.
Et donc, par exemple, on a tendance à voir l'univers scientifique comme un univers totalement différent de l'ancien univers chrétien, avec une ancienne façon de voir les choses.
And we saw that, for instance, in H.G. Wells' The Time Machine, in which he showed what evolution is really like for humanity, what the future of the universe might be.
Et finalement, bah, quand on regarde Wells avec sa machine à voyager dans le temps, il montre que finalement, quand on va dans le temps, on voit l'évolution et la conception de l'univers qui évolue avec l'évolution des individus et des mentalités.
So maybe we need new archetypes, new psychological archetypes for this new universe.
Et peut-être qu'avec les nouveaux univers qu'on va découvrir et les nouvelles conceptions qu'on va découvrir, on va avoir besoin de nouveaux archétypes pour visualiser et analyser ces nouveaux univers.
And maybe science fiction with its storytelling, however imperfect, is a way of working towards those new archetypes.
Et peut-être que la science-fiction, même si finalement dans les histoires qu'elle propose et dans les démarches qu'elle présente, elle est imparfaite, bah c'est peut-être une façon de nous amener à réfléchir, pour nous amener vers ces nouveaux archétypes qui sont nécessaires.
Yeah, so there you are. My closing thought: science fiction is like a huge therapy session.
Peut-être que finalement la science-fiction c'est une espèce de session de thérapie géante.
Alors on va continuer la thérapie un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres?
So we go on with the therapy.
Oui. Vous pouvez passer le. C'est le micro un peu plus près de la bouche.
Oui, je voulais savoir où on en est à l'heure actuelle, comment que la magie pour les avantages
Vous parlez de magnéto-hydrodynamique?
Oui.
En rapport avec les voyages dans l'espace ou...
Non, mais non. Enfin,
pour l'instant, disons, les tentatives, je dirais, d'essayer d'avoir, d'obtenir des vaisseaux qui pourraient aller à des vitesses considérablement plus élevées, bah, ça s'oriente plutôt vers des systèmes qui soient, au niveau énergétique, beaucoup plus efficaces. Hein. Les moteurs les plus efficaces actuellement ont des taux de transformation matière énergie qui sont extrêmement, extrêmement faibles. Pensez que le Soleil lui-même, à la fin de sa vie, aura dépensé bien moins que 1% de sa masse en énergie. Donc actuellement, les processus énergétiques sont pas seulement pas contrôlés. Alors il y a les physiciens, alors je pense à toi, hein, je te regarde là-dessus, parce qu'on essaye effectivement d'utiliser des processus beaucoup plus efficaces, parce qu'ils existent dans la nature. Ils existent dans la nature, c'est les quasars. Les quasars correspondent certainement au processus le plus efficace de transformation de l'énergie, puisque, donc, pour rappel, hein, les quasars sont en fait, correspondent en fait à des trous noirs massifs qui vont jusqu'aux milliards de masses solaires. Autour de ces trous noirs, en fait, la matière qui en fait tombe, elle n'est pas juste brutalement absorbée par le trou noir. En fait, ce qui se passe, c'est que cette matière a un peu de rotation, hein, c'est ce qu'on appelle le moment angulaire. Donc on forme ce qu'on appelle des disques d'accrétion autour du trou noir. Évidemment, à proximité du trou noir lui-même, la matière subit des effets extrêmement violents en termes énergétiques, ça s'appelle des effets de marée, qui détruisent d'abord la matière telle qu'on la conçoit, mais détruisent jusqu'au noyau. Donc il y a annihilation de cette matière, et là on a des processus qui sont de 30%, 40%. On transforme vraiment E égale MC2, hein, c'est possible de faire ça, on transforme de la matière en énergie. Actuellement, on est vraiment très loin de ces process. Il y a des centrales qui sont construites dans ce but-là, augmenter l'efficacité énergétique. Pour l'instant, on est vraiment extrêmement loin de faire quoi que ce soit. Pour donner un exemple, un moteur qui permettrait de faire les accélérations dont je parle, c'est-à-dire obtenir des vitesses 100 fois plus élevées que les vitesses que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, si on voulait faire ça, il faudrait pratiquement, au niveau du matériel, utiliser une masse qui serait comparable à celle de la Terre. Ouais, c'est pour ça que je vous dis que pour l'instant, on n'y est pas. Il faut quand même insister là-dessus.
Excuse-moi, mais l'AMHD, ça ne fonctionne pas dans le vide, par définition.
Ben non.
Oui, c'est non. Ça.
Donc, la, la, la,
Juste pour revenir sur la MHD, oui, il y a des applications à la MHD, mais je ne les vois pas, ce n'est pas à cet endroit-là. Il y a une application extrêmement importante, par exemple, on soupçonne éventuellement que la MHD pourrait avoir un rôle dans la rotation des galaxies. Il faut que vous sachiez que la rotation des galaxies, c'est une des entre guillemets, preuves, parce que moi je la mets quand même entre guillemets, de la matière sombre. Donc la MHD pourrait changer ce genre de choses. Mais je ne la vois pas trop sur le...
Ça dépend sur le débat qui va venir, parce qu'on va parler de la Terre, de la noire, de l'énergie noire, de trous noirs, de trous verts. Donc je vous propose, malheureusement, il y avait une dernière, on peut prendre une dernière question ou je me tourne vers les organismes. Non, on va arrêter là, et puis on va continuer dans le débat suivant. Hein, je remercie les invités qui nous ont participé, et merci à vous aussi. On va commencer la table ronde tout de suite, ceux qui veulent rester.
Je crois que...